de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. L'augmentation des cas de COVID-19, le confinement en Palestine peut se réappliquer. Suga remporte le poste de chef du parti au pouvoir au Japon et remplace Abe. Ma'ruf Amin a exhorté les pays de l'OCI à se renforcer mutuellement pour restaurer l'économie mondiale. Les Saoudiens ont annoncé leur intention d'ouvrir progressivement le service de la Omra. Le gouvernement souligne que le PSBB n'a pas encore été stoppé. Batik fait une apparition à un salon de la mode à New York au milieu de la pandémie. Le ministère de l'Industrie stimule l'industrie sidérurgique pour stimuler les exportations. Voici le journal complet. La politique de confinement complet en Palestine peut être réappliquée en raison de la flambée quotidienne des infections à coronavirus. C'est ce qu'a déclaré lundi le porte-parole du ministère de l'Intérieur de la Palestine, Ghassan Nemer. La flambée des cas de COVID-19 s'est produite parce que le public n'a pas respecté les protocoles de sécurité. Il a déclaré à Voice of Palestine, la station de radio officielle palestinienne, que la Palestine faisait face à des chiffres terribles. Le haut comité d'urgence s'occupe de tous les scénarios possibles à se produire, mais pour l'instant, le comité ne recommandera que la mise en œuvre et un contrôle plus strict des protocoles de sécurité. Pendant ce temps, le ministère de l'Éducation a déclaré que 131 écoles à travers la Palestine avaient fermé en raison de la propagation du nouveau virus dans leurs locaux. Le porte-parole du ministère, Ehab Shukri, a déclaré que la situation épidémiologique dans les écoles est actuellement sous contrôle et que les écoles resteraient ouvertes aux étudiants et aux enseignants. Il a donné un exemple. S'il y avait des cas de virus corona enregistrés dans les écoles, les salles de classe seraient fermées pendant 2 jours à 1 semaine pour l'assainissement. Yoshihide Suga, 71 ans, un ami politique proche de l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe, a remporté le poste de chef du Parti libéral-démocrate LDP lors des élections internes organisées lundi. Suga a réussi à obtenir 377 voix sur un total de 534 votes valides aux élections générales auxquelles ont participé des députés de LDP ainsi que des représentants de 47 sections locales du parti. Ses adversaires, Shigeru Ishiba, ont remporté 68 voix et Fumio Kishida avec 89 voix. Avec cette victoire, Suga remplacera Shinzo Abe en tant que président du parti jusqu'en septembre 2021. Tout en s'ouvrant une voie plus large pour lui-même lors du vote pour l'élection du premier ministre qui aura lieu cette semaine pour remplacer Shinzo Abe. On estime que Suga remportera le vote pour devenir premier ministre au Parlement mercredi 16 septembre, car la majorité des membres de la Chambre basse sont remplis par des membres de LDP. Le vice-président de l'Indonésie, Maruf Amin, a invité tous les dirigeants des pays membres de l'Organisation pour la coopération islamique, OCI, à se soutenir et à se renforcer mutuellement dans un effort pour restaurer l'économie mondiale touchée par la pandémie de COVID-19. C'est ce qu'a déclaré Maruf Amin dans un discours vidéo livré en ligne lors de l'événement Global Islamic Finance Award ou GIFA qui s'est tenu lundi à Islamabad au Pakistan. L'économie est le secteur le plus touché par la pandémie de COVID-19, y compris les activités économiques de la charia. Il a espéré que les pays membres de l'OCI pourraient profiter de ce moment comme effort pour développer les activités économiques et financières islamiques. Dans son discours devant des représentants du gouvernement et des acteurs économiques mondiaux de la charia, il a affirmé le développement des activités économiques et financières de la charia en Indonésie. Selon Maruf Amin, le développement économique et financier islamique Indonésie a des caractéristiques différentes de celles des autres pays. En Indonésie, l'économie de la charia est l'un des piliers de la résilience économique nationale en synergie avec l'économie conventionnelle. Le ministère de l'Intérieur déclare que les plans de levée de la suspension des services de l'Omra seront annoncés par étapes. La réouverture des services de l'Omra est basée sur ce qui sera décidé de manière indépendante en examinant le développement de la pandémie de COVID-19. En outre, l'Arabie Saoudite a annoncé lundi qu'elle levait complètement les restrictions sur les citoyens quittant et rentrant dans le royaume en ouvrant tous les accès terrestres, maritimes et aéroportuaires à partir du 1er janvier 2021, conformément aux précautions et protocoles de santé liés au coronavirus. Les citoyens du Conseil de coopération du Golfe ainsi que les expatriés et leurs personnes à charge avec des visas valides sont autorisés à entrer dans le royaume à partir du 15 septembre. Ils comprennent les expatriés qui ont des visas de sortie et de retour valides, des visas de travail, des permis de séjour et des visas de visite à condition de respecter toutes les précautions et protocoles concernant le coronavirus, un résultat de test négatif pour le coronavirus qui est effectué 48 heures avant d'entrer dans le royaume. Le ministre chargé de la coordination des affaires économiques, Airlangga Hartarto, a déclaré que le gouvernement avait souligné que jusqu'à présent, la politique de restriction sociale à grande échelle ou PSBB n'a pas été et n'a jamais été stoppée en réponse à la propagation généralisée de COVID-19. Cela a été dit par Airlangga Hartarto après une réunion limitée du Comité sur la gestion de COVID-19 et la reprise économique nationale par le biais d'une vidéoconférence du Palais Merdeka à Jakarta lundi. Il a déclaré que la politique de PSBB était toujours en course. Selon Airlangga, ce qui est nécessaire, c'est la coordination dans la reprise de décision car elle implique diverses questions, en particulier la santé publique. Selon lui, les données sur le terrain doivent être synchronisés afin qu'il n'y ait aucun potentiel de chevauchement. Par conséquent, à la fin de la semaine dernière, une réunion de coordination a eu lieu entre les gouvernements régionaux de Jabodetabek ou Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi pour synchroniser les étapes qui doivent être effectuées. Un certain nombre d'œuvres de mode batik ont été exposées lors de la semaine internationale de la mode et des arts ou IFA Week sur le thème « Beauté en batik » qui s'est tenu dimanche à New York aux États-Unis, dans le contexte de l'épidémie en cours. C'est ce qu'a déclaré le consulat général d'Indonésie à New York dans un communiqué reçu lundi par l'agence de presse Antara à Jakarta. La séance de prise de vue a été réalisée en mettant en œuvre des protocoles de santé pour éviter la propagation du coronavirus, comme la limitation de la distance physique, le port de masque et la vérification de la température. Plusieurs personnes sont devenues mannequins portant des vêtements sur le thème du batik lors de la séance photo, notamment Endang Wahyu Kinasi, épouse du consul général indonésien à New York, qui était invité d'honneur de l'événement. Trois créateurs de mode ont participé à la séance photo beauté en batik, Natalia Ya Pascal, Annie Ismonomu et Vanice Tusinyang, qui ont, je veux dire, qui sont également les organisatrices d'Iva Week. Le ministère de l'Industrie incite l'industrie sidérurgique à stimuler les exportations car l'industrie continue de faire preuve de compétitivité en étant capable de pénétrer le marché d'exportation tout en montrant que la demande dans ce secteur est toujours en croissance malgré la pression de l'impact de COVID-19. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de métal, des machines, des équipements de transport et d'électronique au ILMATE du ministère de l'Industrie, Taufik Bawazir, lorsque l'exportation de 1200 tonnes d'acier a été libérée au Pakistan dans la zone industrielle de Cikarang à l'ouest de Java lundi. Dans une déclaration écrite reçue par l'agence de presse Antara, il a révélé que le gouvernement continue de s'efforcer d'augmenter la croissance de l'industrie sidérurgique nationale en encourageant la création d'un climat commercial industriel propice et compétitif afin d'augmenter l'utilisation et les capacités d'innovation dans le secteur. À cette fin, a déclaré Taufik, le gouvernement a publié divers règlements, y compris des règlements d'importation d'acier, basé sur l'offre et la demande des permis d'exploitation pour la mobilité et les activités industrielles qui garantissent à l'industrie de continuer à fonctionner avec des protocoles sanitaires stricts. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Sejurtok, bonsoir. Après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre « Avec la démocratie, faire face ensemble à la pandémie ». Tous les 15 septembre, le monde commémore la Journée internationale de la démocratie. En 2007, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de marquer le 15 septembre comme Journée internationale de la démocratie dans le but de promouvoir et de faire respecter les principes démocratiques. La date était choisie en référence à la Déclaration universelle sur la démocratie publiée par l'Union interparlementaire, OIP, le 15 septembre 1997. La Déclaration affirme les principes de la démocratie, les éléments et pratiques de la gouvernance démocratique et la portée de la démocratie internationale. Dans des circonstances normales, un système démocratique permet aux citoyens des pays démocratiques de se sentir garantis en tant qu'êtres humains libres de penser, d'exprimer leurs opinions, de se déplacer et de se développer. Maintenant, la pandémie de COVID-19 se produit. En conséquence, les victimes ne peuvent être évitées. Le virus SARS-CoV-2 qui cause la COVID-19 s'est propagé dans le monde entier. De nombreux gouvernements sont contraints d'adopter des politiques qui ne sont pas démocratiques. La situation d'urgence les a également obligés à prendre des mesures d'urgence. Des réglementations strictes en matière de restrictions physiques sont mises en place pour empêcher une propagation plus large de la pandémie de COVID-19. En Europe et aux États-Unis, les contrôles stricts sur la circulation des citoyens déclenchent des manifestations car ils ont l'habitude de se déplacer librement. Même s'ils ont des avantages économiques et un bon système de santé, de nombreux pays de la région sont impuissants à faire face à la pandémie de COVID-19. Le nombre de victimes dans la région est supérieur au nombre de victimes où le virus SARS-CoV-2 a été découvert pour la première fois à Wuhan, en Chine. Il y a un dilemme entre la liberté et la santé. À l'inverse, la décision décisive du gouvernement communiste chinois d'imposer un confinement total de Wuhan et de plusieurs autres villes a effectivement accéléré la reprise de la situation. L'Indonésie est un grand pays démocratique. Jusqu'à présent, il n'y a aucun signe de diminution de la propagation de COVID-19. Cependant, l'Indonésie n'est pas confrontée au même dilemme avec d'autres pays démocratiques. L'Indonésie est confrontée au dilemme de sauver l'économie ou la santé. Le pouvoir autoritaire ne réduira pas la propagation de la pandémie. En fait, cela provoquera la révolte des affamés. Les autonomisations communautaires actuellement menées par le gouvernement indonésien, telles que la réduction des impôts pour les MPME, la fourniture d'une assistance d'une valeur de 2 millions de rupiah pour les micro et petites entreprises et une subvention d'une valeur de 600 millions de rupiah pour les employés à faible revenu, sont les mesures les plus appropriées. La communauté habilitée peut faire les bonnes choses pour se protéger sans avoir à être sous contrôle autoritaire. Avec un système démocratique, la confiance et l'obéissance des citoyens au gouvernement permettent également une réponse plus efficace à la pandémie de COVID-19. Chers auditeurs, c'est le commentaire pour ce soir. Bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 15 septembre 1974, l'accident d'un vol aérien du Vietnam 706. Le vol 706 d'Air Vietnam s'est écrasé le 15 septembre 1974 près de la base aérienne de Panrang, Vietnam du Sud. Après avoir décollé de l'aéroport international de Da Nang, Vietnam du Sud, donc le vol régulier était à destination de l'aéroport international de Tan Son Nhat Saigon. Le Duc Tan, en garde forestier impliqué dans un vol de voiture, a détourné le vol en détenant deux grenades. Il a demandé au pilote de voler à Hanoi au Vietnam du Nord. Pour des raisons inconnues, le pilote s'est approché de l'aérodrome de la base aérienne de Panrang, mais il a annulé l'atterrissage. Peu de temps après, l'avion s'est écrasé au sol à une altitude de 300 mètres, faisant 75 morts dans l'avion. L'autre information est sur il a célébré la première journée internationale de la démocratie le 15 septembre 2008. En 2007, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de célébrer le 15 septembre comme la Journée internationale de la démocratie pour promouvoir et faire respecter les principes démocratiques. L'Assemblée générale des Nations unies a également invité tous les États membres et toutes les organisations à commémorer cette journée de manière appropriée, ce qui a contribué à sensibiliser le public. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement l'attentat à la bombe du chemin de fer de Parsons Green le 15 septembre 2017. Le 15 septembre 2017, vers 8h20 heure locale, une explosion s'est produite dans le train de la ligne district à la station de métro de Parsons Green à Londres, en Angleterre. 30 personnes ont été traitées dans des hôpitaux ou des centres de soins d'urgence, principalement pour des brûlures par les bombes à godets brutes avec des minuteries remplies de produits chimiques explosifs TATP ou triacétone triperoxyde. La police a arrêté le lendemain le principal suspect, un réfugié irakien âgé de 18 ans, Ahmed Hassan, à la zone de départ du port de Douvres. La police a ensuite effectué une descente de plusieurs adresses, notamment la maison de famille de Kay d'un couple de personnes âgées à Sanberry-on-Thames où habite Hassan. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
I just wanna kiss you. I just wanna love you all my life. Normally wouldn't say this, but I just can't contain it. I want you here forever, right here by my side. Hold you, kiss you.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. C'est un moment pour nous de vous présenter Mon Indonésie et pour le titre, KKP a rappelé que les opportunités d'exportation de la pêche vers la Chine sont grandes ouvertes. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, ou KKP, rappelle aux acteurs commerciaux du secteur maritime et halieutique national que les exportations de produits de la pêche vers la République populaire de Chine sont largement ouvertes en ce moment. Actuellement, la Chine commence à se remettre de sa récession et ses opportunités de marché sont grandes ouvertes. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire de l'Agence de quarantaine des poissons, de contrôle de la qualité et de la sécurité des produits de la pêche du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Hari Mariadi, dans un communiqué à Jakarta dimanche. Il a rappelé qu'actuellement, les produits de la pêche indonésiens avaient été acceptés dans 158 pays du monde et que l'un des plus grands marchés d'exportation des produits de la pêche indonésiens était la République populaire de Chine. En outre, 664 unités de transformation de poisson ont été enregistrées en tant qu'exportateurs dans ce pays. Hari Mariadi expliquait que sur la base des données de China Custom Data, l'Indonésie se situe au quatrième rang des plus gros exportateurs de produits de la pêche vers la Chine au cours de la période janvier-mai 2020. La performance du secteur de la pêche au premier semestre 2020 montre une graphique encourageante comme une augmentation de la valeur des exportations enregistrées à 6,9% ou 2,4 milliards de dollars américains par rapport à la même période en 2019. Ensuite, sur la base des données de l'Agence centrale des statistiques indonésiennes ou BPS, il montre également qu'au premier semestre 2020, la balance commerciale du secteur maritime et de la pêche a également enregistré un excédent de 2,2 milliards de dollars américains ou en hausse de 8,3% par rapport au semestre 2019. Auparavant, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche dispensait à son personnel informations liées à la négociation et à la diplomatie, y compris au maintien et même à l'augmentation du marché d'exportation au milieu d'une pandémie. Pendant ce temps, le chef de l'Agence de quarantaine de poissons, de contrôle de la qualité et de la sécurité des produits de la pêche du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, ou KKP, Rina, a déclaré que sa partie souhaitait augmenter la capacité de l'appareil, en particulier pour soutenir l'amélioration et l'efficacité de la coopération étrangère dans le domaine de la quarantaine de poissons, du contrôle de la qualité et de sécurité des produits de la pêche. Selon elle, c'est important entre autres parce que la sécurité alimentaire et les maladies transfrontalières sont des problèmes de concurrence pour la disponibilité alimentaire à l'échelle mondiale. Rina expliquait, il n'est pas rare pour obtenir les meilleurs produits que les pays développés en tant que consommateurs créent des barrières techniques ou des obstacles aux procédures réglementaires telles que l'application d'exigences techniques strictes et cela peut rendre difficile les pays exportateurs, y compris l'Indonésie. Par conséquent, il est nécessaire d'accroître les connaissances et les capacités de l'appareil ministériel sur la technique de négociation et de diplomatie dans les forums internationaux. Rina a déclaré que cela était très important pour que les substances techniques puissent être transmises correctement et améliorer la position de la négociation de l'Indonésie, en particulier dans les forums internationaux. Chers auditeurs, c'était Mang Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. la diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, aujourd'hui, je vais vous présenter le culinaire Gogodo Benyalan. Si vous voyagez à Banjarmasin, Kalimantan du Sud, n'oubliez pas de goûter aux délices culinaires typiques de la tribu Banjar, qui est l'un des résidents locaux. La tribu Banjar propose une variété de délicieux culinaires locaux, tels que soto Banjar, sate Banjar et ketupat kandangan. Pour les collations, les Banjar ont le populaire gâteau bingka et gogodo benyalan. Cette fois, nous vous présentons le grignotant Gogodo Benyalan. Chers auditeurs, dans la langue Banjar, Gogodo signifie banane. Ce culinaire est à base de banane. De l'apparence, vous pouvez voir des tranches de banane mélangées à une sauce épaisse au lait de coco. En plus d'être fabriqué à partir d'un type de banane décroissant, le gogodo benyalan est fabriqué à partir de farine de blé, de sucre, d'œufs de poule, de lait de coco épais, de sel, de vanille, de colorant alimentaire et de feuilles de pandan. Comment le faire est assez facile. Mélangez du lait de coco épais avec du colorant alimentaire, du sel, de la vanille et du sucre. Puis, faites-les bouillir jusqu'à ce qu'ils bouillent. Enrobez les tranches de banane de farine et les trempez dans le lait de coco bouillant. Après cela, mélangez les œufs et remuez bien. Après avoir été cuit, laissez le gogodo benyalan refroidir. Chers auditeurs, pour la présentation, pour rendre ce culinaire magnifique, on l'ajoute souvent avec des petits morceaux de feuilles de pandan sur des tranches de banane. C'est mieux qu'on mange du gogodo benyalan quand il fait encore chaud. C'est savoureux et épais et ce culinaire est très délicieux. On mange l'après-midi avec une tasse de thé. Pour en profiter, vous pouvez vous aller aux étals traditionnels de Banjarmasin. Voilà le magazine culturel sur le culinaire de Gogodo Benyalan.
Thank you.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Bonsoir à tous. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Belajar Memasak. Belajar Memasak, ou en français, apprendre à cuisiner. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien dont le titre est Belajar Memasak. Belajar Memasak, ou en français, apprendre à cuisiner. La situation est à la cuisine de la pension, cette enseigne Ulan. À la cuisine de la pension, Siti enseigne Kevin à cuisiner du riz sauté avec des épices instantanées. Bonne écoute.
Minyak di wajan sudah panas, Siti.
Masukkan bumbu instannya sekarang, Kevin.
Semuanya?
Iya, semua.
Lalu?
Lalu, masukkan nasinya. Kemudian, aduk merata dengan bumbu.
Baiklah.
Sergemi, après avoir écouté la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, Belajar Memasak. Belajar Memasak, ou en français, apprendre à cuisiner. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Et vous pouvez me répéter. Minyak, minyak. En français, l'huile. Wajan, wajan. En français, la poêle. Masukan. Masukan, mettre, semua, tout. Bumbu instan, des épices instantanées. Lalu, et puis. Kemudian, ensuite. Cara membuat nasi goreng. Comment faire du riz sauté? Masukkan minyak, mettez l'huile, nasi, du riz, mudah, c'est facile, aduk merata, remuez bien. Chers amis, quand vous enseignez quelqu'un de faire quelque chose, donnez des instructions étape par étape. Pour indiquer un processus séquentiel, utilisez le mot lalu, en français, puis, kemudian, en français, ensuite. Si quelqu'un vous demande bagaimana cara membuat nasi goreng, signifie comment faire du riz sauté, vous pouvez y répondre panaskan minyak. Lalu masukkan bumbu instan di wajan, kemudian masukkan nasi. Panaskan minyak, lalu masukkan bumbu instan di wajan, kemudian masukkan nasi. En français, chauffez de l'huile, Puis mettez les épices instantanées dans la poêle. Ensuite, mettez le riz. Vous pouvez ajouter mudah bukan, mudah bukan. Setelah itu, jangan lupa aduk nasinya hingga merata dengan bumbu. Setelah itu, jangan lupa aduk nasinya hingga merata dengan bumbu. Signifie, c'est facile, n'est-ce pas? Après ça, n'oubliez pas de remuer bien le riz et les épices. Chers amis, avant de terminer apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Minyak di wajan sudah panas, Siti.
Masukkan bumbu instannya sekarang, Kevin.
Semuanya?
Iya, semua.
Lalu?
Lalu, masukkan nasinya. Kemudian, aduk merata dengan bumbu.
Baiklah.
Bon, chers auditeurs, voilà l'émission d'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci beaucoup de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3-5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et je vais vous présenter le magazine musical. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, dans cette édition, nous vous présentons une chanson malaise intitulée Senandung Perantau, chantée par Puspitasari. Serge Littard, composée par Abah Ali, cette chanson raconte d'une personne qui quitte sa ville natale, quitte sa mère et ses jeunes frères et sœurs, et par erreur, à la recherche d'une vie meilleure. Il espère que Dieu accordera toutes ses prières et pourra bientôt rencontrer sa famille. La chanson, dont le tempo est lent, utilise la langue malaise sambas. Le malaise sambas est une langue malaise qui s'est développée dans la région de Sambas, dans la province de Kalimantan de l'Ouest. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Senandung Perantau, chanson des nomades, chantée par Puspitasari. Bonne écoute.
Yeah.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.